Jovenis. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai pas eu beaucoup de temps pour méditer aujourd'hui. Mais bon, on aura quand même quelque chose. J'ai reçu une très mauvaise nouvelle hier du Congo. J'ai dû aller m'endormir. En prière. Père Céleste, te remercions ce soir, cette grâce que nous avons de nous rassembler autour de ta parole. Et comme nous le disons toujours, ta parole, elle réconforte, elle console, elle encourage, donne la joie à ceux qui n'en ont pas. Elle réjouit les âmes et elle rétablit toutes choses. Parce qu'elle a le pouvoir de rétablir, elle a le pouvoir de créer, elle a le pouvoir de transformer les choses. Aussi, nous te prions ce soir de bien vouloir nous honorer de ta présence et de nous parler à travers de ta parole. Ainsi que tu nous as consolés pendant que nous méditions pour ce qu'il fallait dire aujourd'hui, on veut aussi venir au secours de tes enfants. Ils sont venus pour écouter ta parole. Que mes états d'âme ne soient pas vraiment un problème pour eux, mais qu'ils puissent regarder vers toi, toi qui restaure toutes choses. Restaure tes enfants. Nous te demandons ce soir de nous assister. Sois-nous miséricordieux pour nos péchés. Accorde-nous tes faveurs également encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans mon prier. Amen. Amen. Pouvons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 11. Juste un verset. Le 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Ce sera notre sujet ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Ayez foi en Dieu. N'ayez pas foi en l'homme. Je crois que c'est frère Jean-Claude Bille qui me disait une fois, « Frère, parfois, c'est difficile de savoir la différence entre la naïveté et la foi. » Et dimanche passé, j'en parlais avec frère Benoît, je dis, maintenant j'ai compris, la naïveté, c'est quand on croit tout ce que l'homme dit. N'aie pas foi en l'homme. Amen. Celui qui croit tout ce que l'homme dit, c'est un naïf. N'importe quel titre il peut se donner, faites confiance à Dieu. Ne faites pas confiance à l'homme. Tandis que la foi, c'est quand on croit à ce que Dieu dit. Amen. D'ailleurs, Paul dit ceci à Timothée dans 1 Timothée 4. Dans 1 Timothée 4, au verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que, c'est ainsi dit le Seigneur, quand c'est l'Esprit qui parle, déterminant ça. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ce sont les temps dans lesquels nous vivons, Paul va même parler au futur. Donc il s'agit de nos temps, le temps dans lequel nous vivons ici. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ne croyez pas en ces faux docteurs. Ils peuvent avoir l'art de parler. Ce n'est pas à ça qu'on regarde. Je préfère quelqu'un qui bégaye et qui m'apporte la parole de Dieu que quelqu'un qui est un bon orateur et qui m'apporte ses propres pensées. Nous n'avons rien à faire des pensées ni de la philosophie de l'un ou l'autre homme. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la parole de Dieu. Et souvent, nous devons nous en méfier. En fait, nous devons nous en méfier parce que ce sont des esprits séducteurs. Ils séduisent. Séduire, c'est arriver à faire admettre quelque chose à quelqu'un. Et à bien présenter cela, à détourner la personne, n'est-ce pas? Ou à l'amener, n'est-ce pas, sous sa coupe. À séduire. Et ils viennent avec des doctrines de démons. N'ayez pas foi en cela. Ayez foi en Dieu. L'apôtre Jean nous dit ceci dans 1 Jean chapitre 4. Il nous donne cette mise en garde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pour ce qui est de l'Esprit Saint, comment est-ce qu'on l'éprouve? Bon. Si ce que l'Esprit nous dit, si c'est conforme à la parole de Dieu, c'est que c'est le Saint-Esprit. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, pas seulement un verset, il faut que ça soit conforme à la parole de la Genèse à l'Apocalypse. Il ne faut pas qu'il y ait une contradiction quelque part, parce que l'Esprit ne se contredit pas. Donc, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Maintenant, lorsque Jésus-Christ exhorte ses disciples à avoir foi en Dieu, il ne parle pas de la grandeur de la foi. Si c'est une petite foi ou si c'est une grande foi. Il dit seulement, ayez foi en Dieu. Ça va? Jésus a dit, même si votre foi est petite, de grandes choses peuvent se produire. Des montagnes peuvent se déplacer. Luc 17. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Les scandales arriveront toujours. Bon, ne nous scandalisons pas lorsque ces scandales arrivent. Mais celui par qui les scandales arrivent, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Dieu ne veut pas qu'un de ses petits à lui soit scandalisé. Prenez garde aussi à vous-même, n'est-ce pas ? J'enlève le aussi parce que je l'ai rajouté. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. C'était trop dur pour les disciples, les apôtres, dire au Seigneur, ben pour ça, il faut vraiment une grande foi. Augmente-nous la foi. Jésus dit non. La foi que vous avez là, elle suffit. Amen. La foi que vous avez, tant que on va y arriver, parce que Jésus dit, ayez foi en Dieu. La foi que vous avez, elle suffit. Vous n'avez pas besoin que la foi soit grande, mais vous avez besoin à ce que l'objet ou la personne en qui vous avez foi soit grand. C'est ça qui est important. Si vous croyez en quelqu'un, en un vaurien, vous avez foi en lui, vous n'aurez rien. Votre foi ne dira rien. Ou un Dieu qui ne parle pas, qui a une bouche et qui ne parle pas, qui a des oreilles et qui n'entend pas, qui a des yeux et qui ne voit pas, vous n'aurez rien. Mais ayez la foi, il dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Et frère Branham dit, c'est le plus petit des grains. C'est la plus petite des graines que l'on peut voir, que l'on peut avoir. Mais le sycomore qui est né de cette petite graine, voyez combien il est grand. N'est-ce pas? Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Donc vous pouvez avoir une grande foi, comme le centenier romain. Vous pouvez avoir une petite foi. Là n'est pas le problème. La seule chose que Jésus veut, c'est que vous la placiez, que ce soit la petite foi ou la grande foi, placez-la en un grand Dieu, au Dieu véritable, au Dieu créateur, au Dieu tout-puissant. Vous pouvez, ce n'est pas la quantité de foi qui compte. Vous pouvez avoir peu de foi ou beaucoup de foi. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est en qui vous avez ce peu de foi. En qui vous avez beaucoup de foi. Parce que le beaucoup de foi, c'est bien, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Malgré que vous aviez foi, malgré que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, mais vous verrez que c'est Dieu qui relève, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Dans les actes, cet homme à la porte appelé la belle, il était paralytique de naissance, n'est-ce pas? Actes chapitre 3, boiteux de naissance. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la belle, la porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quand vous regardez dans Actes 6, vous verrez que ce nom de Jésus de Nazareth, ce nom a été donné. Il a été donné justement pour que lorsque nous sommes dans le besoin, nous pouvons invoquer ce nom. Et Dieu viendra nous aider. Dans Actes chapitre 4, pardon, verset 10, il nous est dit ceci, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Cet homme qui était à la porte, appelé la belle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné. Dites amen à ça. S'il a été donné et que Pierre et Jean l'ont reçu, Pierre et Jean avaient ce nom avec eux. Et ayant ce nom, Pierre et Jean pouvaient se permettre de dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais j'ai autre chose. J'ai un nom. J'ai un nom. Alors, en ce nom-là, ne reçois pas d'argent, non, mais lève-toi et marche. Ce nom-là a la puissance. Si vous avez, nous allons lire. Si vous avez foi en ce nom, ce nom-là a la puissance de vous relever. Ce nom-là a la puissance de venir à votre aide. Si on revient au chapitre 3, les gens étaient étonnés de voir cet homme qui était à la porte appelé la belle commencer à danser dans le temple. Louer son Dieu, au verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever, après lui avoir dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il ne louait pas Pierre et Jean. Il louait Dieu. Dieu a agi au travers de Pierre et de Jean, mais il savait que c'était Dieu qui l'avait relevé. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Ce n'est pas parce que j'ai jeûné 3 jours, 4 jours, que cet homme-là marche. Ce n'est pas parce que je me suis consacré, je suis parti, je me suis mis en retraite pendant X jours, que cet homme-là marche, mais cet homme-là marche, pourquoi ? D'abord, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Sachez que lorsque votre prière est exaucée, c'est le nom de Jésus-Christ qui est glorifié. La gloire revient à ce nom béni que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Alors, écoutez, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Nous, en français, on dit Jésus. En anglais, on va dire Jesus. En lingala, on va dire Yesu. En d'autres langues, on va dire autrement, mais en hébreu, ça reste Jéhovah Sauveur. Yehoshua. C'est la foi en son nom qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ils ont cru en ce nom. Quand Dieu vous dit qu'il est Jéhovah Rapha, qui nous guérit de toutes nos maladies, si nous avons foi en ce nom-là, nous pouvons invoquer ce nom-là concernant notre maladie. Et quand vous l'avez demandé, Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu. Si vous le croyez réellement, Dieu honorera votre foi. En fait, c'est votre foi qui est honorée. Parce que Dieu dit, le juste vivra par la foi. Dieu veut récompenser, entre guillemets, Dieu veut répondre à votre foi en vous montrant sa puissance. Quand il vous dit qu'il est le Dieu tout-puissant, vous croyez qu'il est le Dieu tout-puissant. Dites amen à ça. Vous savez, quand il dit à Moïse, lorsque il demande la viande à manger, Dieu dit à Moïse, je vais leur en donner. N'est-ce pas? Pas pour un mois, pas pour un jour, pas pour 10 jours, mais pour tout un mois. Moïse va lui dire, Seigneur, attendez, je cherche le passage. Il y a autant d'hommes. Attendez. Il y a 600 000 hommes de pied et tu dis que tu vas leur donner de la viande pendant tout ce temps. C'est dans Nombre 11. Nombre 11, allons dans Nombre 11. Verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait. Chacun... On va commencer au verset 4, excusez-moi. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël, même les croyants, recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtait rien, ils oublient que ça leur a coûté des coups de fouet. Ils oublient que ça leur a coûté du travail à n'en pas finir. Ils oublient ça. Si les Égyptiens les nourrissaient bien, c'était pour qu'ils aient la force de pouvoir travailler. C'est comme le cheval, n'est-ce pas? Le cheval qui travaille avec la charrue dans les champs, il faut bien, vous savez, quand vous regardez ces chevaux-là, même les bœufs qui travaillent, ce sont des bœufs ou des chevaux costauds. On les a engraissés, ils sont très bien nourris, ces chevaux-là, ou ces bœufs-là, qu'importe qui fait le travail, parce que le travail qu'ils font est un travail énorme. On les nourrit pour qu'ils puissent travailler ainsi toute la journée, pendant 6 heures à labourer. Oui. Alors, c'est ainsi que les Égyptiens ne les nourrissaient pas pour leur plaisir. Les Égyptiens en avaient besoin. Hein? Je vous ai dit ici dimanche qu'il y a le banquier qui voulait me voir. Je suis allé le voir, mais il tirait tellement la couverture de son côté, j'ai refusé sa proposition. Oui. Alors, il y a un frère qui m'a dit tout à l'heure, ces gens-là, Ils ne feront jamais quelque chose pour te faire plaisir. C'est toujours pour eux. J'ai refusé. J'ai dit, Madame, laissez-moi réfléchir. Mais c'était déjà tout réfléchi. Je suis parti. Ici, quand les Égyptiens leur donnaient à manger, c'était dans un but. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os, de l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Moi, je peux leur poser la question. La manne, elle vous coûte quoi? Vous voyez? La manne non plus ne leur coûtait rien. Dieu pouvait les laisser crever de faim dans le désert. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. On passe. Moïse, verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ?» Le pauvre. « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein ?» comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande, moi, pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne voie pas mon malheur. Maintenant, si Dieu avait tué Moïse, est-ce que vous pouvez dire quelle grâce Moïse a eue? Vous voyez? Puisque Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Hein? C'est une grâce. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Sans le Saint-Esprit, on a dur. Hein? Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous en demandez. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. Ok, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, il y en a qui crie yes, ni deux jours, yes, ni cinq jours, ah bon, ni 10 jours, ni 20 jours. Vous savez, on en arrive à une situation, je crois que vous avez tous connu ça. Vous êtes à la maison, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Vous ne savez plus très bien ce que vous voulez manger ce jour-là. Ah, on peut manger telle chose, mais on a mangé ça hier. On va manger telle autre chose, on a mangé ça il y a 3 jours. Hein? Donc, vous ne savez plus ce que vous avez mangé. Vous allez au supermarché, vous regardez les rayons, vous regardez, ah, ça j'ai moi, non, j'en ai assez mangé de ceci, j'en ai assez mangé de cela. Ça m'arrive aussi d'en avoir assez de la viande, vous savez. Ça nous arrive. Mais Dieu dit, ben, pas 10 jours. Ah, oh là là. Mais, pas 10 jours, ni 20 jours. Il y a une sœur qui dit, quand vous commencez à murmurer comme ça, vous demandez à Dieu, Dieu va vous donner les choses comme s'il était fâché. Effectivement. Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Oh là là, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse dit, « Attends, Seigneur, attends un peu, attends. » Verset 21, Moïse dit, « 600 000 hommes de pied. » Je compte que les hommes, Forme le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Arrêtez de regarder à l'environnement. Arrêtez de regarder au ventre du poisson. Tant que vous êtes dans le ventre du poisson, ne regardez pas dans le ventre du poisson. Jonas, quand il s'y est trouvé, n'est-ce pas, il regardait devant, en dessous, au-dessus, à côté, ainsi de suite. Tout ça, c'était le ventre du poisson. Mais Jonas a prié. Et il a dit, j'ai prié l'Éternel, et l'Éternel m'a exaucé. Alors qu'il était encore dans le ventre du poisson. Ayez foi en Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ayez foi en lui. L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait trop courte. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Il faut croire en un Dieu, il faut avoir la foi en un Dieu dont la main n'est pas courte, en un Dieu tout-puissant. Amen. Vous devez avoir foi en un Dieu tout-puissant, pas en un Dieu qui soit incapable à certaines choses. Vous devez savoir que Dieu est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de quelque chose qui n'existe pas, Dieu est capable d'appeler cela à l'existence. Dieu dit à Moïse, il dit à Abraham. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Dites amen à ça. Genèse 17. Verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, il a attendu. Depuis ses 75 ans, ça fait 24 ans de passé. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Quand on dit de Dieu qu'il est le Dieu Tout-Puissant, est-ce que nous nous rendons bien compte de ce que nous disons? Le Dieu puissant, c'est Jésus. Est-ce que nous nous rendons bien compte de ce que nous disons? Tout ce dont j'ai le besoin se trouve en sa main. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Maintenant, verset 15. Après qu'il lui ait dit, il est le Dieu tout-puissant. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit. C'est que ça montre depuis le temps où Dieu lui disait à Abraham, que je te donnerai un fils, voyant les années passées, puisque la Bible nous dit qu'Abraham a cru en Dieu. Il a cru, cela lui fut imputé à justice, n'est-ce pas? Donc, certainement, Abraham croyait que Dieu allait lui donner une autre femme, beaucoup plus jeune, n'est-ce pas, qui pouvait lui enfanter ce fils. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, parlait de Sarai. Il dit, c'est Sarah qui aura un fils. Abraham rit et dit en son cœur, il ne l'a pas dit comme cela à haute voix, il a dit en son cœur. C'est frère Roger Godefroy qui disait, nos pensées parlent plus fort que nos paroles. Et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et alors? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, Ismaël, ça me suffit. Non, monsieur, Quand Dieu vous promet, vous dit, demande ce que tu veux. Si vous demandez une Rolls-Royce, attendez-vous à avoir la Rolls-Royce. Ne dites pas, Dieu, écoute, c'est vrai peut-être que la Rolls-Royce, c'est trop difficile. Ça va coûter trop de taxes. Non, ça, Seigneur, tu seras incapable de pouvoir m'aider à l'entretenir. Si Dieu vous donne la Rolls-Royce, il vous donnera aussi les moyens de l'entretenir. S'il ne veut pas, il ne vous la donnera pas. Maintenant, ne dites pas à Dieu, une, deux chevaux, c'est bien, l'essentiel, c'est de me déplacer. Non, monsieur. Vous avez demandé une Rolls, prenez une Rolls. Amen. Quand on a aménagé ici, on avait demandé une salle. N'importe quelle salle pouvait convenir. Mais je crois, ça, cela me vient maintenant tout de suite, je suis sûr, on aurait pu demander une autre catégorie de salle. Et Dieu nous l'aurait donné. Puisque nous avions demandé ceci, et ça nous a contenté, ben, on s'est contenté de cette salle. De toute façon, on ne s'en plaint pas, on y est très bien, n'est-ce pas? Et Dieu a pourvu. Pour ceux qui s'en souviennent, les premiers jours étaient laborieux. Hein? En hiver, quand on prêchait ici, il y a la buée qui sortait de la bouche. Avec une écharpe. C'est à peine si on n'avait pas le manteau. Amen. Il y en a même qui venaient avec des bouillottes. On se demandait si on avait bien fait, finalement, d'avoir la salle. On s'était engagé à une entreprise compliquée. Est-ce qu'on allait tenir ainsi tous les hivers? Tous ceux qui avaient des poêles à pétrole amenaient leurs poêles à pétrole ici. Et ça, il y en avait plein la salle, jusque là-bas. Mais ces poêles à pétrole-là ne réchauffaient pas. Mais Dieu a pourvu. Amen. Nous avons un chauffage. Amen. Nous y sommes très bien. Amen. Oui. Si, puisque Dieu nous a donné la salle, il nous a donné les moyens de l'entretenir. Il nous a donné les moyens de la payer. Le fisc a voulu... Satan est allé les trouver pour leur dire que nous, on doit payer le fisc. Ils nous ont taxés ici. Pour qu'on fasse faillite, on n'a pas fait faillite. Tant que c'est l'œuvre de Dieu, on ne fera pas faillite. N'ayez pas peur. Dieu, vous croyez, Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu créateur. Tout a été fait par lui. En lui et pour lui. Amen. Tout. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, non, certainement, Sarah, amen, tu n'as pas mal entendu. Je te parle de Sarah. Amen. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac, pas Ismaël. Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Isaac signifie il rit. Parce que justement, Abraham a ri. Ça va? Donc, vous devez avoir Abraham, vous devez avoir foi en un Dieu tout-puissant. Même si la chose qu'il vous promet semble impossible, même si vous avez peu de foi, vous n'avez peut-être pas la foi de soulever les montagnes, ce n'est pas grave. Dieu peut intervenir en votre faveur. Tant que vous êtes convaincu, vous avez la pleine conviction que Dieu est capable de le faire, demandez-le à Dieu. Vous n'avez peut-être pas suffisamment de foi. Vous n'avez peut-être pas la foi de Moïse qui pouvait faire, qui pouvait, en demandant, en écoutant Dieu, faire écarter la mer rouge. Vous n'avez peut-être pas cette foi-là. Ce n'est pas grave. Mais la foi de Moïse, Moïse est mort aujourd'hui. Il est mort, mais le Dieu en qui il avait foi est toujours vivant aujourd'hui. Il est toujours là aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Sa puissance n'a pas diminué. Sa puissance est toujours la même. S'il a ouvert la mer rouge au temps de Moïse, il peut encore l'ouvrir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Or, Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? S'il vous trouve avec cette foi-là, on a un Dieu qui peut vous enlever, hein, qui peut vous amener là-bas, auprès de lui. S'il vous trouve avec cette foi-là, il sera content. Il vous prendra. Ne commencez pas à vous poser des questions. Comment est-ce qu'avec mon poids, je vais monter? Votre poids n'a aucune influence là-dessus. Ayez foi en Dieu. Paul dit, Romains chapitre 4, on connaît le passage. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé. Ne regardez pas l'usure de votre corps. Amen. Ne regardez pas votre faiblesse comme Gédéon. Hein, je suis le plus petit de ma famille. Hein, je suis le plus faible. Hein, je suis... Ne regardez pas ça. Dieu dit, c'est moi qui t'envoie. Usé de puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ayez cette conviction-là. C'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Job, après avoir passé des moments compliqués, Job a beaucoup parlé. Job a posé beaucoup de questions. Il y a un chapitre où, il y a longtemps, mais j'ai oublié le nombre. J'avais compté le nombre de pourquoi que Job s'était posé. Il y en avait beaucoup. Je vais retrouver le chapitre, je vais le recompter. Et je vous le dirai. Pourquoi ceci ne va pas? Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi gna gna et pourquoi? Plein, énormément de pourquoi. Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Ça, c'est Job, ça. Mais Dieu va lui répondre. Dieu va lui dire dans Job 38, il dit d'abord... Tu poses des questions, n'est-ce pas? Il dit, Job, je ne sais pas, c'est parti dans les psaumes. Job 38. Dieu lui dit, pourquoi tu tiens ce discours-là? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il n'a pas arrêté la tempête. Mais Dieu lui répond au milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence. Ce sont des discours sans intelligence. Finalement, Dieu va lui parler. Hein. Dieu va lui montrer sa puissance. Hein. Dieu va lui montrer sa puissance. Il dit, Dieu lui pose la question. On peut prendre n'importe quel verset ici. Verset 6, verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Sur quoi les bases de la terre sont-elles appuyées? Est-ce que tu le sais? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Est-ce que tu le sais? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, Dieu va lui montrer sa puissance. Il va lui parler des Pléiades et de l'Orion, les étoiles, comment elles se disposent là-bas dans les cieux. Job va se rendre compte qu'il est en présence d'un grand Dieu. Et dans Job 42, Job va le reconnaître. Verset premier, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ah, maintenant, il parle de lui-même. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, sans comprendre combien tu es grand, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Vous voyez? Quand vous demandez quelque chose à Dieu, au nom de Jésus-Christ, vous devez être convaincu que Jésus-Christ est capable de le faire. Dans Matthieu 9, ayez foi en lui. N'ayez pas foi aux hommes. Vous savez, les hommes peuvent vous dire des choses, mais les choses peuvent se passer autrement que prévu. Mais Dieu, lui, ne connaît pas d'imprévu. Dans Matthieu 9, verset 27, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous devez croire que Jésus-Christ est capable de le faire. Amen. Mais si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est capable de le faire, cela ne sert à rien de le lui demander. Non. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, ça veut dire que vous avez foi que Dieu est capable de faire ce que vous lui demandez. Amen. Quand l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit, Marie va demander, comment est-ce que je peux avoir un enfant? Je n'ai pas connu d'homme. Je peux pas, comment est-ce possible? Marie dit à l'ange, Luc 1, 34, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, et Dieu est tout-puissant, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Vous savez, moi j'ai fini. J'ai déçu un enfant à la maison. Je lui ai dit, écoute, moi, puisque j'avais... Je devais voir la banquière aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute, on verra vendredi. Moi, j'étais sûr de moi parce que moi, j'avais une proposition à faire à la banquière, mais ma proposition ne passait pas. Alors, quand je suis rentré, mais j'ai dit à la maison, j'ai dit, écoute, ne me demande rien jusqu'à ce que... Oui, non, papa, je ne demanderai rien. Et puis, tout à coup, tout à l'heure, Moi, je suis revenu de la banque. Papa, est-ce que tu n'aurais pas? Et oh, je t'ai dit, il ne faut pas demander. Ouais, c'est que l'homme dit, l'homme ne peut pas le réaliser. Hein? Vous allez dire à un enfant, ça arrive souvent. On est, écoute, tu as combien dans la main là? J'ai 20. Ben, écoute, prête-les-moi. Je te rends ça demain. Le lendemain, parfois même avant-demain, il est déjà là. Avant-demain. Je t'ai dit demain, mais attends demain. Mais Dieu, c'est pas la même chose. Moi, je peux être pris au dépourvu, mais pas Dieu. Vous voyez, Dieu, il a la maîtrise du temps, il a la maîtrise des circonstances, il a la maîtrise de toutes choses qui se passent. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit à Fabrice, je ne sais pas si ça fera 20 minutes aujourd'hui, parce que j'ai arrêté, ça n'avançait pas. Mais bon, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Prions le Seigneur. Ça a quand même fait plus que 20 minutes. Prions au Seigneur. Père céleste, c'est toi qui es le maître des temps, des circonstances. Tu tiens nos vies entre tes mains. Tu as fixé nos jours, le nombre de nos pas. Tu as fait toutes ces choses dans ta sagesse. Dans toutes choses, tu ne commets pas de faute. Quand tu causes une plaie, tu la bandes également. Tu as le baume de Galate qui soulage les choses qui peuvent ainsi nous arriver. Nous te demandons tout simplement de nous assister, et particulièrement en ce jour. Nous avons notre enfant qui est hospitalisé depuis ce matin pour pneumonie. Isha qui est hospitalisé. Nous savons que tu es plus que capable de la guérir de cette pneumonie. Nous voyons ici dans les Écritures, nous savons que ce ne sont pas juste des Écritures vides de sens. Nous voyons des aveugles nés. Aveugles de naissance, donc, des boiteux de naissance, des infirmes de naissance que tu as relevés. Certainement, il y avait des problèmes dans les gènes. Aujourd'hui, il peut y en avoir encore, ta puissance n'a pas diminué. Toi qui as donné la vue à des aveugles de naissance, toi qui as donné la marche, le mouvement à des boiteux de naissance. Toi qui as relevé même des Lazares qui étaient dans les tombeaux, nous croyons que tu es plus que capable de toutes les prières que nous t'avons déjà adressées concernant notre fille. Nous savons qu'un jour, nous entendrons également l'ange nous dire. Nous affirmer cela, nos nombreuses prières ont été entendues. Nous te les avons adressées de tout notre cœur. Nous avons jeûné, nous avons veillé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais pour elle, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Aussi, nous la remettons à nouveau devant toi. Puissions-nous venir même par-dessus le toit, comme ceux d'autrefois, avec ce paralytique qui était dans son lit, et venir le mettre en présence du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la foi que si tu dis un mot, que si tu lui donnes l'ordre de se lever, de marcher, de sauter, de te louer, cet ordre sera exécuté. Parce que ta parole, rien n'y résiste à elle. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce dont pourquoi tu l'as prononcé. Aussi, si tu la prononces, l'ange avait dit à Daniel une fois, quand tu as commencé ta prière, la parole est sortie. C'est notre prière. Nous ne savons pas comment les choses se passent là-bas en haut, mais nous avons foi que tu entends nos prières lorsqu'elles te sont adressées comme un parfum de bonne odeur. Aussi, nous nous sommes tous accordés ici ce soir en faveur de Isha. Que tu lui viennes en aide, que tu la bénisses. Te prions également en faveur de ceux qui ont besoin que tu interviennes, qui ont besoin de Jéhovah Rapha. Quel que soit l'âge qu'ils ont, tu les bénisses, que tu les guérisses. Nous avons besoin que tu consoles ceux qui ont besoin de consolation, que tu leur apportes la consolation dont ils ont besoin. Que par la foi, ils puissent voir la résurrection, que par la foi, ils puissent voir la guérison, la délivrance. Et nous nous en tenons au témoignage de David qui a dit que tes jugements sont parfaits. Tous ceux qui ont le cœur droit, ils l'approuveront. Donne-nous cette droiture de cœur, car nous ne voulons pas contester avec toi, nous voulons approuver tout ce que tu fais. De bonnes choses ou de mauvaises choses, nous te disons merci pour tout. Et que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié. Merci pour la réunion de ce soir. Et nous nous adressons à toi au nom merveilleux et tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse.